Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Joël Tronchon, le directeur RSE du groupe SEB. Bonjour Joël, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Bonjour.
Alors on est à distance, hein. Confinement oblige, même si on est déconfiné, on préfère garder les gestes barrières, donc la distanciation sociale, et donc on le fait à distance. D'ailleurs, toi tu es resté confiné Joël ou pas du tout ?
Eh bien oui Alice, effectivement, je suis resté confiné jusqu'à il y a jeudi dernier, chez moi à Lyon. Sur la colline de Fourvière, qui est un des arrondissements verts de Lyon, donc j'ai pu quand même respirer. Et j'ai redémarré le travail, puisqu'on a réouvert le siège social la semaine dernière, progressivement.
Le siège social qui est à Paris ?
Qui est à Lyon aussi, qui est à Écully, en fait, juste à côté de Lyon.
Qui est à Lyon, d'accord. Donc toi, tu es à Lyon, d'accord.
Voilà.
D'accord. Et donc là, tu es au bureau, je suppose.
Et là, non, aujourd'hui, c'est mon jour. Non, aujourd'hui, c'est le jour du télétravail, c'est le jour où le siège social est nettoyé de fond en comble pour le dévirusser. Et donc aujourd'hui, personne n'est au siège et tout le monde est en télétravail à la maison.
Ah, d'accord. Et toi, comment d'ailleurs ça se passe le télétravail ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, que tu faisais déjà ou c'est vraiment tout nouveau ?
Je faisais pas beaucoup parce que comme j'ai un métier d'interface et de relations avec de nombreux autres départements, c'est faire tout à distance, c'est pas forcément pratique. Puis c'est un métier de relations aussi et de conviction et d'influence, donc forcément c'est plus en live. Mais par contre, j'avais l'habitude de télétravailler, de parler déplacement en fait, donc déplacement en France ou à l'international. Du coup, on a l'habitude de travailler à distance quand même. Donc, on avait en tout cas toutes les pratiques et les outils pour.
Top. Et d'ailleurs, je vais te poser des questions un peu plus personnelles, attention. Je voudrais savoir du coup d'où tu viens. Est-ce que tu as toujours eu un parcours RSE, puisque tu occupes quand même des fonctions spécifiques. Et d'ailleurs, on échangeait en off juste avant, tu connais Bertrand Zwiderski. On en parlait tous les deux. Toi, est-ce que tu as un parcours purement RSE ou pas du tout ?
Alors, purement non, mais je crois qu'il n'y a pas, vu que le métier n'existe pas depuis non plus 20 ans, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont un parcours 100% RSE. J'ai démarré dans le sociétal quand même. Parce que moi, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai démarré dans le monde associatif à la Fondation Agir contre l'exclusion. Où je montais des clubs d'entreprise dans les banlieues, tous les quartiers populaires de France.
En quelle année ?
C'était en 93, 93, 94, et je devais rester en fait un an, parce que j'avais fait mon service national dans une association justement de lutte contre l'exclusion. À l'époque, on avait encore l'armée, et donc on pouvait ne pas faire l'armée et aller s'investir dans le sociétal, dans une association, ce que j'ai fait. Je pensais rester qu'un an. En fait, je suis resté 5 ans parce que ça m'a passionné. Et j'ai rejoint l'entreprise juste après.
Directement le groupe SEB ?
Non, chez L'Oréal d'abord. Je suis resté 5 ans et j'en garde un excellent souvenir et encore pas mal de collègues et de relations. C'est vraiment un groupe extrêmement intéressant. D'ailleurs, on le voit, ils sont très engagés aussi en RSE. C'est un groupe qui a des valeurs bien chevillées au corps.
Il y a quelques jours, j'ai reçu Alexandra Palt dans L'Empreinte. Donc, c'est drôle, ça se croise. D'accord, donc tu as fait tes armes chez L'Oréal. Et c'était un milieu qui te plaisait, la beauté, la cosmétique ou pas du tout ?
Ce qui me plaisait beaucoup, c'était surtout d'être... Alors, moi, je faisais des ressources humaines, puisque c'était mon métier, c'est toujours mon métier d'origine. Le contexte, en tout cas, de la grande consommation. C'est plutôt la grande consommation qui m'intéresse, que ce soit les cosmétiques ou les produits d'électroménager aujourd'hui. C'est plutôt la grande consommation pour des raisons simples, c'est que c'est les produits qui sont quand même dans le quotidien des gens et qui ont du sens, en tout cas qui ont une utilité. Donc, c'est, je suis toujours resté d'ailleurs dans ce domaine-là, hein, puisque après un parcours ressources humaines chez L'Oréal, je suis allé faire un parcours ressources humaines aussi, mais avec une dimension plus internationale chez Casino, donc chez un distributeur. Là, on reste dans la grande consommation. Parce que en fait, pour des raisons géographiques, j'ai décidé de suivre ma femme qui était mutée à Lyon. À l'époque, pour gérer la double carrière, c'était pas aussi simple. Donc, et on travaillait pas trop à distance. Donc j'ai dû quitter L'Oréal et j'ai eu une belle opportunité chez Casino. Donc, j'étais DRH international, donc ça m'a amené à découvrir des continents que je connaissais pas, notamment l'Asie et l'Amérique latine. Et donc pour gérer les expatriés et les mouvements internationaux de personnel. Et puis après j'ai été DRH des hypermarchés en France, une belle expérience aussi avec beaucoup de magasins, 20 000 salariés, donc de grandes équipes et puis des jolis projets. Et puis j'ai quitté après le groupe Casino pour aller faire le truc qui me manquait, qui était une expérience industrielle, puisqu'en fait j'avais appréhendé beaucoup de métiers en tant que ressources humaines, du marketing, du commerce, de la recherche, de la logistique, enfin après tous les métiers sauf la production, et ça me manquait. Et donc j'ai été DRH donc d'une activité très industrielle, puisqu'elle comprenait notamment les marques Tefal et des grandes usines, dont la plus grande usine européenne de poêles et de casseroles, qui est située en Haute-Savoie, à Rumilly, où j'ai passé 3 ans merveilleux, où j'ai appris ce que c'était que l'industrie.
Donc toi, tu avais plutôt une dynamique de curiosité, de secteur, etc., et pas de secteur de prédilection, en fait. Tu t'es pas dit « je veux être dans les cosmétiques », c'était plutôt de la curiosité intellectuelle. Oui. Et par contre, toujours cette volonté de faire des ressources humaines, quand même, j'ai l'impression.
Oui. Ouais, et puis peut-être le fil rouge, c'était entre mes différentes entreprises, je n'en ai pas fait non plus 50, mais c'était aussi des entreprises qui avaient déjà des engagements sociétaux. Et ça, c'était vrai chez L'Oréal, c'était vrai chez Casino.
Et avant, c'était d'ailleurs même toujours, avant d'être créé, les dimensions RSE et vraiment les responsables RSE, c'était vraiment les RH qui s'occupaient de la RSE et du bien-être, etc., des salariés notamment avant. Et puis, il y avait parfois les fondations avant que vraiment la fonction, ce que tu disais à juste titre au tout début, ne soit réellement créée.
Exactement. Notamment parce que à l'époque, effectivement, la RSE, c'était souvent les départements ressources humaines qui s'en occupaient, et notamment parce que la RSE à l'époque c'était cantonné à l'engagement sociétal, les fondations, les relations avec les associations, les relations avec les territoires. Donc c'était effectivement, ça venait de là, la dimension on va dire action pour les communautés, pour les quartiers, et c'est vrai que du coup c'était souvent les RH qui s'en occupaient.
Et alors Seb, comment est-ce que tu as rejoint ce groupe? Forcément, je pense fil conducteur avec ta dernière expérience en usine.
Oui, alors il y a effectivement, après mon expérience de 3 ans là en ressources humaines, j'étais en Haute-Savoie, mon patron m'a proposé à l'époque la fonction RSE était déjà créée depuis 2007, elle était en démarrage, et il m'a proposé de prendre ce job-là pour implanter en fait la RSE dans tous les métiers. Ce qui m'a plu, c'était que ça m'ouvrait quand même sur une partie beaucoup plus business, beaucoup plus développement, et puis c'était une fonction qui était un petit peu à l'état embryonnaire. Donc ça m'a permis surtout de la développer, de la construire et de l'amplifier.
C'était en 2017 ou en 2007? J'ai pas bien compris.
2007.
Ah oui, 2007. Ah ouais, donc c'était vraiment quand même en amont de...
2007, et moi j'ai pris la fonction fin 2011.
D'accord, parce que en 2007, tu voyais bien que la dynamique n'était pas la même qu'actuellement.
Ah non, c'était radicalement différent, et même moi quand j'ai pris la fonction fin 2011, ça commençait à décoller un peu, c'est-à-dire qu'on sortait un peu de la RSE cantonnée à la simple action sociétale ou éthique, et on commençait à avoir des développements, notamment sur l'environnemental. En tout cas, le lien business et RSE n'existait pas beaucoup, même en 2011.
D'accord. Et qu'est-ce que, par exemple, quel grand projet as-tu pu mettre en place au cours de toutes ces années, puisque tu as du coup maintenant presque 13 ans, un peu moins de 13 ans de RSE pur. Donc, tu as vu forcément évoluer le marché, la demande, les besoins, l'appétence des consommateurs pour la RSE, pour la transparence de l'entreprise sur ces sujets-là.
Alors oui, ça, en fait, ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'au tout démarrage, on va dire, la période 2011-2015, Il y avait beaucoup de sujets qui étaient liés à la, ce qu'on appelle la conformité, la compliance, l'éthique. Donc, j'ai démarré par les fondamentaux, qui étaient notamment créer un code éthique mondial, mettre en place une politique d'achat responsable aussi qui n'existait pas, qu'on a co-construit avec le patron des achats de l'époque. Donc, on a fait vraiment les, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, celle que les consommateurs voient pas. Mais si cette partie-là est pas faite, on peut pas être crédible pour aller derrière développer d'autres dimensions comme l'économie circulaire ou des engagements sociétaux vis-à-vis des salariés. Donc en fait, on a démarré par l'éthique. Après, après, on a attaqué des sujets, effectivement, des sujets RH. Donc, notamment, on a mis en place un certain nombre de projets, notamment des enquêtes salariées avec Great Place to Work qu'on a déployé mondialement. Et ça, c'est effectivement le département développement durable dont je m'occupe, qu'il a initié et puis déployé au niveau mondial. On a travaillé aussi après des projets de socle social mondial avec les RH pour qui en fait en gros des couvertures minimum, notamment en termes de santé, en termes de prévoyance pour tous les salariés, quels qu'ils soient, dans n'importe quel pays qu'ils soient, ce qui garantit quand même une qualité de vie et une couverture sociale minimale pour tous nos salariés partout dans le monde. Donc des projets de ce type là et puis après on a attaqué les sujets beaucoup plus business, donc notamment dès déjà 2012-2013, la thématique de l'économie circulaire commençait à pointer son nez. C'était encore assez abstrait, l'entreprise. Et là, on a développé beaucoup de choses qui fait qu'on est connu aujourd'hui pour ces dimensions-là. Donc, ça va de l'éco-conception des produits pour qu'ils soient plus durables, la capacité à les réparer, l'introduction de matières recyclées dont on pourra reparler tout à l'heure, la seconde vie des objets, le recyclage, enfin tous ces sujets-là qui sont des sujets environnementaux mais aussi business.
Je veux bien que tu me parles maintenant de ce que tu voulais me parler de tout à l'heure.
Pas de problème. Donc du coup, c'est l'économie circulaire, les projets d'économie circulaire, ça a été les premiers sujets de développement durable liés au business. Donc en gros, il y avait beaucoup de produits qui arrivaient notamment d'Asie avec des coûts extrêmement faibles et puis des produits d'assez mauvaise qualité, des produits qui n'étaient pas très durables. Et là, on n'avait pas 50 solutions, on pouvait pas vraiment lutter pour faire des produits moins chers. Et donc on est parti plutôt sur l'option de par le haut de faire des produits qualitatifs plus durables, certainement plus chers que ceux de nos concurrents, mais en tout cas qui allaient avoir une qualité et une durée de vie plus importante. Donc, on a commencé à retravailler toutes les co-conceptions des produits pour qu'ils durent longtemps, avec la facilité qu'on avait pour le faire parce qu'on a des usines, on a 42 usines dans le monde aujourd'hui, ce qui nous rend un peu différents de nos concurrents qui pour certains n'ont pas d'usine. Donc, c'est une des forces du groupe CEP pour faire des produits durables. Donc, la durabilité des produits. Puis après, on s'est mis à inventer et à proposer des produits qui soient réellement réparables. Avec tout un réseau de réparateurs agréés, on a plus de 6000 réparateurs dans le monde, des pièces détachées qu'on conservait, qu'on stocke pendant extrêmement longtemps. On a un engagement un logo sur nos produits, 10 ans réparable minimum, ça veut dire que les pièces détachées, on les stocke même après l'arrêt de production du produit pendant au moins 10 ans, des fois c'est 15, 20, 25 ans, selon les produits. Puis après, on s'est mis à inventer aussi des nouveaux services autour de la réparation, des forfaits de réparation qu'on propose à nos clients, où en gros ils savent quel prix ils vont payer, pièces, main d'œuvre, il n'y a pas de surprise, il y a des prix qui sont très accessibles. Des nouveautés aussi, puisqu'on va ouvrir en partenariat avec le groupe d'insertion Arès sur Paris, j'espère à la rentrée, une joint venture sociale qui va s'appeler RéparCEP, qui va être en Paris 18e et qui va c'est un lieu où on pourra réparer des produits d'électroménager, mais aussi également louer des produits et acheter des produits d'occasion, des produits qui ont une seconde vie à des tarifs finalement intéressants. Donc on autour de ces services là on a beaucoup de nouveaux services liés à la réparation. On est cité comme un des groupes d'ailleurs qui justement combat l'obsolescence programmée. On est cité par des ONG comme les Amis de la Terre par exemple ou HOP comme plutôt des modèles à suivre justement où on est contre les produits jetables, contre les produits non durables. Mais pour des raisons aussi économiques hein, et business, c'est que nous On préfère vendre à nos consommateurs des produits durables parce qu'on est, on a la certitude que ils auront comme ça une affection particulière sur nos marques, qui rachèteront d'autres produits de la même marque parce qu'ils auront été contents de la longévité et de la qualité du produit initial qu'ils ont acheté.
Oui, puis la fidélité, la transparence, tout ce qui aujourd'hui encourage le consommateur.
Exactement.
Le consommateur est devenu un consomme-acteur et il choisit dans quel produit il investit. Et en général, ce qu'il aime, c'est savoir quelle est la marque derrière ce produit, d'où l'importance de la RSE et de la transparence dans cette politique.
Absolument, absolument. Ils sont en recherche de marques engagées et puis de produits fiables avec lesquels ils peuvent compter sur un cycle assez long. Après, autour de l'économie circulaire, on s'est mis aussi à ça, c'était assez innovant. Il y a 5-6 ans, on s'est mis à introduire de plus en plus de matières premières recyclées dans nos produits. Alors, ça a l'air simple, c'est pas du tout simple en fait, parce qu'il y a tout un système, une boucle d'économie circulaire. C'est déjà comment on récupère la matière. Donc, on a pu récupérer du plastique recyclé issu d'ailleurs des déchets des produits électriques et électroniques qu'on fabrique aussi, donc qui étaient des déchets produits en France. On a récupéré ces déchets-là et on a, avec nos partenaires industriels, nos fournisseurs, pu racheter de la matière plastique recyclée, qui présente un avantage énorme, c'est que ça fait économiser 70% de carbone par rapport à du plastique vierge qu'on aurait pu acheter issu du pétrole. Donc, on a commencé à en mettre dans quelques gammes. Au début, des aspirateurs, des fers à repasser. Maintenant, il y en a dans des machines à café, des planchas. Il y a donc plein de produits. Maintenant, il y a de plus en plus de matières premières recyclées qui a les mêmes caractéristiques pour le consommateur. C'est-à-dire que c'est des produits, des matières plastiques aussi résistantes, aussi. Et puis, on ne fait pas que des produits avec du plastique. On a aussi fait des matières premières recyclées, notamment en métal, notamment dans les poêles et les casseroles Tefal, avec des gammes en 100% aluminium recyclé. On est les seuls au monde à faire ça, où là, on gagne encore plus de carbone, puisque l'aluminium vierge, c'est très consommateur d'énergie pour le produire. Donc, c'est un impact carbone qui n'est pas très bon. Et l'aluminium recyclé, on gagne 90% d'énergie et de carbone. On économise 90% de carbone quand on fait des gammes issues de matières aluminium recyclées. Et c'est des gammes Made in France. Cet aluminium recyclé, en fait, on le récupère avec des opérations qu'on fait avec nos consommateurs et nos clients distributeurs, où on encourage nos consommateurs à ramener les anciennes poêles et casseroles dans les magasins partenaires. Et nous, on s'occupe après de la collecte, du recyclage avec d'autres partenaires pour faire en sorte de récupérer cette matière et de la réinjecter dans des produits neufs. Donc, c'est des boucles assez complexes sur le plan logistique, commercial et industriel, mais qui sont assez vertueuses parce que du coup, la matière est réutilisée et surtout, elle voyage pas à travers le monde. Donc, l'équation carbone de tout ça est extrêmement favorable à l'environnement.
Génial. Et du coup, là, tu m'as parlé de beaucoup de projets déjà mis en place. Quelles sont les futures actions envisagées par le groupe SEB? Je pense qu'il y a toujours une évolution constante. Toi, qu'est-ce que tu aimerais, quels seraient tes souhaits à venir?
Alors, on a plein d'autres projets en cours, des projets en cours et puis des choses qu'on a déjà faites. Dans les projets d'avenir, on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir davantage, notamment offrir des services pour des produits de seconde vie, des produits d'occasion. Et en ce moment, on le voit dans le textile. Hein.
Avec le confinement, il y a un vrai engouement des consommateurs pour ce retour à la seconde vie des produits, etc. Moi, je l'ai remarqué, je l'ai observé parce que j'ai lancé quelques sondages et le minimalisme, etc. Et du coup, je pense que c'est une jolie dynamique d'encourager la seconde vie des produits.
Tout à fait. Donc, on va aller là-dedans. Et ça aussi, toujours dans l'économie circulaire, on va doper, là j'étais avec Monoprix encore ce matin, avec lequel on teste un service de location. Là, on est dans l'économie de la fonctionnalité. Il y a un certain nombre de produits qui si on s'en sert 3 ou 4 fois dans l'année, quel est l'intérêt de les acheter? Il vaut peut-être mieux les louer de manière occasionnelle. Et puis comme ça, on mutualise leur usage entre plusieurs consommateurs. Donc on développe ce service avec Monoprix et on va vraiment le mettre en lumière beaucoup plus fortement à la rentrée. Donc c'est des nouveaux business, des nouvelles activités qu'on va aussi expérimenter et lancer. Ce sera un service à Paris. Et puis on développe aussi de plus en plus avec nos équipes recherche et marketing on développe aussi de plus en plus des recettes embarquées dans nos produits et des produits qui permettent à nos consommateurs d'avoir une alimentation plus saine et plus durable. Donc manger plus sain, manger moins de viande, plus de légumineuses, plus de fruits et légumes, et nos produits en fait doivent aider les consommateurs à améliorer leur comportement alimentaire sans que ça soit pénible pour eux, que ce soit une cuisine facile, goûteuse. Voilà. Donc là, on a plein de nouveaux produits, plein d'innovations produits qui vont aller dans ce sens-là.
Une façon aussi d'évangéliser les messages, les bonnes manières et des astuces pour consommer local, durable, etc. Donc, c'est vrai que du coup, ça ne m'étonne pas trop que vous soyez en parler avec Monoprix ou des juste d'autres gros retailers sur ces façons de faire. Et je pense que c'est comme ça que d'ailleurs c'est l'union qui fait la force. Donc je trouve ça génial, moi je trouve ça bien.
Complètement, non, on a là-dessus, on se retrouve assez bien avec nos clients distributeurs, en tout cas les distributeurs très engagés. On discute bien avec le groupe Casino, avec Carrefour, avec Cdiscount, enfin voilà, on a des clients vraiment qui sont extrêmement engagés sur ces sujets-là, avec lesquels on a plein de champs de coopération autour de la RSE. Et puis surtout, on arrive à se parler, bien sûr qu'on fait du business ensemble, mais on arrive vraiment à prendre le temps de construire des nouvelles activités où chacun trouve, entre guillemets, son intérêt. Et ça, c'est un champ, j'allais dire, plutôt intéressant de coopération, la RSE, entre clients et fournisseurs de ce point de vue-là. Et puis, on expérimente des nouveaux, voilà, des sujets complètement différents. Par exemple, on est rentré depuis quelques années sur des sujets qui ont un impact environnemental et santé, donc un impact RSE extrêmement important. On est sur des catégories de produits, notamment sur le traitement de l'air intérieur, des purificateurs d'air, où là, on apporte vraiment un service avec un impact positif et évident. Et puis, on est en train aussi de regarder des projets dans le traitement de l'eau également aussi. Il va y avoir quelques annonces dans les mois à venir.
Parce que le purificateur d'air et puis d'eau, je pense que ça pourrait faire un boom de vente en pleine crise sanitaire comme celle-ci.
Ouais, exactement. Donc c'est des secteurs sur lesquels on va investir. On est en train de regarder des coopérations avec des startups aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, donc, beaucoup de choses à venir de ce point de vue-là qui vont renforcer justement le lien entre RSE et business, parce que là on est vraiment au carrefour des deux. Et on travaille étroitement avec les équipes marketing, les équipes R&D sur ces nouveaux produits et nouveaux services, parce que de plus en plus, par exemple, pour améliorer l'alimentation des gens, typiquement la recette, nous on a des produits où on embarque plein de recettes, et le fait de proposer des recettes qui permettent aux gens de consommer plus de protéines végétales, par exemple, ça transforme de fait les comportements alimentaires des gens. Nos produits ont un vrai impact sur les évolutions de la manière dont les gens cuisinent et dont les gens mangent en famille, à la maison, avec nos produits.
Et d'ailleurs, toi, quelles sont tes bonnes actions quotidiennes, puisque tu les prônes? Est-ce que toi-même, tu es un vegan, veggie, ou pas du tout, t'es flexi, ou est-ce que finalement, non, t'es un vrai carnivore et tu peux pas te passer de ta viande? Voilà. Dis-moi, toi, quels sont tes angles de consommation responsable?
Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis plutôt un flexitarien. Je suis d'ailleurs aidé vers ma transition alimentaire par ma fille, ma grande fille, en tout cas, qui elle est végétarienne. Donc, ça aide. Non, on fait attention à de plus en plus de choses, notamment, j'ai profité du Covid et de la crise pour installer un compost avec ma famille. Donc, on fait attention au gaspillage alimentaire, qui est quand même un sujet d'impact extrêmement important. Et effectivement, on mange plutôt très équilibré, comme en plus on fait pas mal de sport tous en famille, ça va avec le côté sain et durable dont on a besoin.
Est-ce que tu aurais du coup envie de rajouter des choses, des éléments qu'on aurait oubliés sur les actions de Seb, sur toi-même, tes propres actions, ton engagement quotidien? Dis-moi tout. Je te réserve ces dernières minutes à ce que tu veux.
Ben, écoute, c'est peut-être un projet dont on est assez fier et qui est parti vraiment d'une coopération avec le design, qui est un très très beau métier, qui est très 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 pertinent et très compétent chez Seb. En fait, on est parti sur un sujet qui s'appelle le design inclusif. Nous, on a des produits qui sont dans toutes les maisons du monde, dans tous les pays du monde. Et si nos produits sont durables, l'idée c'est que justement ils doivent être utilisé par un nombre important de gens, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé ou leur handicap. Et l'idée, on s'est aperçu qu'en fait, on avait un certain nombre de produits qui étaient assez difficiles d'utilisation pour des gens qui avaient des problèmes de vision ou de vue, des problèmes d'arthrose, des handicaps pour attraper nos produits. En fait, on est en train de bâtir une méthodologie qu'on va d'ailleurs communiquer open source d'ici quelques semaines. On a fait un guide du design inclusif en partenariat avec France Handicap et avec toute une méthodologie de design pour justement faire attention, prendre en compte quand on développe un nouveau produit, une innovation produit, prendre en compte le fait qu'ils doivent être inclusifs et qu'ils peuvent être utilisés par des gens qui ont des handicaps ou des besoins particuliers. Et en fait, ça a l'air d'être très simple, c'est assez compliqué parce qu'il faut faire attention à plein de petits détails qui font qu'à la fin, votre produit est ergonomique et est, entre guillemets, très facile à utiliser, sans danger, pour n'importe quelle personne, quel que soit son âge, son handicap, sa santé.
Toujours de l'innovation, et c'est génial de souligner ça. Moi, je trouve que ça encourage vraiment les gens à approfondir leur recherche en matière de RSE. Je trouve que ce message est vraiment joli, de trouver ce design, trouver ces nouveaux sujets, quoi, en fait.
Voilà, on est vraiment dans l'innovation durable, là. Après, il y a évidemment, je t'ai pas parlé beaucoup des sujets d'environnement ou des sujets de carbone, parce qu'aujourd'hui, quelque part, on fait le job, mais j'allais dire, heureusement et comme tout le monde. Bien sûr qu'on a, on a plein d'actions pour diminuer les émissions de carbone de nos usines ou de notre chaîne logistique. Donc, on travaille beaucoup avec nos équipes logistiques et industrielles pour réduire les factures énergétiques, pour installer aussi de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable. Donc, tu vois, par exemple, au siège social ou dans nos usines, on commence à voir fleurir pas mal de panneaux photovoltaïques, des fermes solaires, des choses comme ça. On n'est pas les seuls à faire ça, mais on le fait aussi. On le fait pas qu'en France, bien sûr, puisque on le fait en Amérique latine, en Asie et en Europe. Donc tous ces sujets d'environnement et de baisse de notre trajectoire carbone, ils sont évidemment extrêmement importants. Et on a pris des engagements d'ailleurs dans le cadre du Science Based Target, des engagements de réduction de carbone ambitieux à 2025, à 2030 et à 2050.
Merci beaucoup Joël, merci d'avoir accepté mon interview dans l'empreinte. Je suis ravie puisque j'ai découvert pas mal d'engagements de CEP. Je connaissais bien le groupe parce que on a tous une machine ou quelque chose de la marque, je pense, chez soi, et je pense que je regarderai davantage sous un autre œil cette marque. Et donc merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, PodInstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast, ou même si l'envie vous prend, de laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait vraiment plaisir. Bonne journée à tous.